Radio Prague, les informations. Bonjour. Un mode de scrutin deux tours serait adopté en cas d'élection du président tchèque au suffrage universel. Le président Václav Klaus représentera la République tchèque lors du sommet de l'Union européenne sur la Libye. Et puis enfin, le gouvernement a approuvé l'interdiction de nouvelles drogues de synthèse. Si le suffrage universel direct était instauré pour la prochaine élection du président de la République en 2013, un mode de scrutin à deux tours, semblable à celui des élections sénatoriales, où au second tour s'opposent les deux candidats sortis en tête du premier, serait adopté. Les représentants des trois partis de la coalition gouvernementale et du Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition, se sont entendus sur ce point mercredi. L'information a été confirmée par le ministre de la Justice. Les candidats devront recueillir les signatures de 50 000 habitants ou pourraient être nommés par un groupe de députés ou de sénateurs. Jusqu'à présent, selon la Constitution, le président tchèque est élu pour un mandat de 5 ans par les deux chambres réunies du Parlement. Ce mandat pourrait également être prolongé d'un an, comme le souhaite la social-démocratie. Le chef de l'État, justement, Václav Klaus, représentera la République tchèque lors du prochain sommet extraordinaire de l'Union européenne consacré à la Libye. C'est ce qu'a annoncé mercredi le Premier ministre Petr Nečas. Ce sommet, organisé sur une initiative franco-britannique, se tiendra à Bruxelles le 11 mars prochain. Il doit permettre aux 27 États membres d'adopter une position commune sur l'attitude à adopter face à la situation en Libye et dans les autres pays du monde arabe. Le gouvernement a approuvé lors du Conseil des ministres de mercredi la modification de la législation sur les drogues de manière à interdire le commerce de 33 nouvelles drogues de synthèse. Parmi les substances interdites par le nouveau texte figurent notamment la méphédrone, le carfentanil et autres tapentadol. La Chambre des députés doit se prononcer sur cet amendement législatif dans le cadre d'une procédure accélérée dans le courant du mois de mars. La confiance des Tchèques à l'égard de l'Union européenne est diminuée selon le dernier sondage réalisé par l'agence STEM, dont les résultats ont été communiqués mercredi. Moins d'un Tchèque sur deux, précisément 46% des personnes interrogées, accordent leur confiance aux institutions européennes. Il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis le début des années 2000, avec seulement 39% le Parlement européen et l'institution bénéficiant de la cote de confiance la plus faible. STEM a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer ces résultats. Les problèmes financiers et économiques de certains États de la zone euro pourraient cependant être une des causes de cette méfiance des Tchèques à l'égard de l'Union européenne. L'archevêché de Prague a officiellement lancé ce mercredi l'année Sainte Agnès. Expositions, conférences et offices religieux célébreront toute l'année les 800 ans de la naissance de la patronne des Tchèques. Selon certaines sources, Sainte Agnès est née le 20 février 1211. L'Église a toutefois choisi le 2 mars, date de son décès en 1282, pour le lancement des célébrations officielles. En novembre, une grande exposition retracera la vie de Sainte Agnès dans le cloître qu'elle fonda, situé dans la vieille ville de Prague. Un timbre à l'effigie de la sainte patronne sera également émis à cette occasion. Sainte Agnès de Bohême a été canonisée, rappelons-le, par Jean-Paul II le 12 novembre 1989, soit quelques jours à peine avant le début de la révolution de velours. On passe au sport. Tomáš Slavík s'est classé 7e du combiné nordique sur grand tremplin qui s'est tenu mercredi à Oslo, en Norvège, dans le cadre des championnats du monde de ski nordique. 11e après le concours de saut à ski, le Tchèque est finalement arrivé en 7e position à l'issue des 10 km de la course de fond. Le titre de champion du monde a été remporté par le Français Jason Lamy-Chapuis, déjà sacré champion olympique de la discipline l'année dernière à Vancouver. Cette 7e place de Tomáš Slavík est pour l'instant le meilleur résultat enregistré par l'équipe de République tchèque aux mondiaux cette année. Mardi, Lukáš Bauer, qui comptait parmi les favoris pour une médaille, avait également terminé 7e, soit une déception du 15 km style classique. On termine avec un mot de météo. Comme depuis le début de la semaine, c'est un temps agréable qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Camilles. Le soleil est largement présent et les températures maximales varient entre 2 et 7 degrés. Aucune évolution notable n'est prévue pour vendredi, un retour des nuages étant possible à partir de samedi. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie. Tout de suite, retrouvez Anna Kubishta pour la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Larguet pour ce bulletin d'information. Une proposition du Conseil économique du gouvernement, le NERF, vise à faire de la langue de Shakespeare la seule langue obligatoire à l'école. Un projet qui fait grincer des dents, notamment dans le monde de l'enseignement. Un film sur l'immigration tchèque en Suisse a été projeté en début de semaine à Prague, un documentaire qui fait partie d'un projet plus large consacré à l'immigration tchèque sous le communisme. Et en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur les manuscrits médiévaux exposés tout le mois de mars au Musée National dans la rubrique Histoire. Bonne écoute de ce programme. Le Conseil économique formé par le gouvernement, également connu sous l'acronyme NERV, vient de recommander que l'anglais soit la seule langue obligatoire dans les écoles tchèques au lieu des deux langues à l'heure actuelle. Les écoles, mais aussi le monde de l'entreprise, sont effarés par cette proposition. Selon le rapport du NERV, l'apprentissage d'une deuxième langue serait une perte d'énergie pure et simple, tandis que la maîtrise de l'anglais, elle, serait la voie royale pour faire carrière. Le temps économisé sur une deuxième langue, qui devient viendrait alors optionnel, pourrait servir à étudier l'informatique ou encore les finances. Les premiers concernés, les professeurs de langue, s'insurgent évidemment contre l'idée. C'est le cas d'Andrea Vishkova, professeur de français dans un lycée de Prague, pour qui cette proposition a des relents plus que passéistes.
C'est un pas en arrière parce que, si je me souviens bien, donc quand avant il y a 20 ans à peu près, donc pendant l'époque de communiste, on avait donc une langue obligatoire, c'était le russe, à cette époque-là, et tout le monde était obligé à apprendre cette langue donnée par l'État qui était obligatoire. C'était une seule langue et c'était sans la possibilité de choisir.
Si l'argument du NERV est celui de la carrière, de l'anglais comme langue du business, certaines entreprises n'y sont d'ailleurs pas nécessairement sensibles. Pour Andrea Vishkova, l'enseignement des autres langues, quelles qu'elles soient, est nécessaire, à la fois comme bagage culturel et comme tremplin vers un futur métier.
Moi, je crois que la proposition de limiter l'enseignement des langues étrangères à l'anglais est vraiment inacceptable parce que, mais comme tout le monde sait très bien, la connaissance de plusieurs langues développe en général chez un élève sa capacité de l'adaptation, sa curiosité, son ouverture culturelle. Et en plus, parler plusieurs langues, par exemple anglais et français, comme je suis enseignante de français, multiplie ses chances de trouver un emploi dans une entreprise internationale, en République tchèque ou dans le monde, parce que c'est une langue de travail officielle à l'ONU, dans l'Union européenne, à l'UNESCO, à l'OTAN, etc. Donc, n'oublions pas aussi que le français est une langue de la culture qui nous permet d'avoir accès en version originale aux grands textes. Et pas seulement le français, mais c'est pareil pour l'allemand, c'est pareil pour l'espagnol, par exemple, pour le russe. Les textes de la littérature, cinéma, chansons.
Les enseignants ne sont pas les seuls à être choqués par la proposition. Elle a également suscité la désapprobation de certaines agences de tourisme ou bien encore de l'Union de l'industrie et des transports. Autre proposition du NERV, un simple niveau de licence et une formation pédagogique pourraient à l'avenir suffire à devenir enseignant et des experts du monde de l'entreprise devraient être, d'après le Conseil économique, toujours plus impliqués dans la formation des pédagogues et dans l'enseignement de manière générale. Le NERV a déjà remis son rapport au ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch, qui ne trouve rien à y redire, tout en concédant qu'il n'allait pas soumettre la proposition concernant la langue de Shakespeare au gouvernement, qui a, selon lui, d'autres chantiers plus prioritaires. La bibliothèque municipale de Prague a projeté ce lundi un documentaire intitulé « Les racines tchèques en Suisse ». Ce film fait partie d'un projet initié en 2009 qui retrace le parcours des Tchèques à l'étranger ayant fui le pays après l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Après le succès de Racine tchèque en Suède, diffusé par la télévision tchèque, vient le tour de la Suisse. Alimoudine Ousmani était présent lors de cette projection.
Le film a été tourné à Bâle, à Lucerne et dans la région de Zurich. Le film retrace le parcours de 8 familles ou individus. Il s'attarde également sur un camp de scouts tchèques dans les Alpes. Les enfants qui ont vécu l'émigration à travers l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents s'expriment en tchèque. Le documentaire s'oriente donc principalement sur le parcours de vie de ces personnes et sur les possibilités offertes par la démocratie suisse. Parmi les professions représentées par les personnes filmées figurent une chimiste de renom, une propriétaire de galerie, un sculpteur, un restaurateur ou une écrivaine à succès. Environ 15 000 Tchécoslovaques avaient trouvé refuge en Suisse, après 1968. Contrairement aux vagues migratoires récentes, celle-ci a été bien accueillie par les Suisses. Tout d'abord, ces réfugiés étaient européens, et ils fuyaient une dictature communiste, ce qui suscitait la sympathie du peuple suisse. La chargée d'affaires de l'ambassade de Suisse à Prague, Dominique Peter, était présente lors de la projection du film. Elle nous a raconté ses souvenirs de l'écrasement du printemps de Prague et a parlé de l'accueil réservé aux réfugiés.
Moi, je me rappelle exactement, j'avais 8 ans, et puis on en parlait à l'école, on parlait à la maison, il y avait ma mère qui me disait qu'il y avait eu une invasion russe à Prague. Je ne savais pas où c'était, mais une invasion russe, c'était quelque chose de mal vu, apparemment. Et ça m'a effrayée, c'était comme les images de la guerre avant. Et puis les réfugiés, quand ils venaient après, on savait tous qu'ils avaient vécu quelque chose de grave. Et comme ça, ils étaient très bienvenus déjà par les émotions qui allaient avec. Et puis aussi, c'était assez facile à l'époque, parce que normalement, c'était des gens bien formés. Ils pouvaient commencer à travailler chez nous, comme ingénieurs dans les usines, comme médecins dans les hôpitaux, comme chimistes, chercheurs à l'industrie chimique à Bâle. Alors, c'était très facile de trouver une place en Suisse.
Dominique Peter ajoute qu'elle a découvert dans le film un nouvel univers. Et elle a été impressionnée par le fait que les personnes s'expriment dans un tchèque parfait 40 ans après l'émigration. Elle nuance toutefois son appréciation du film par une critique. Elle a été frappée par le regard presque touristique que les caméras avaient sur la vie en Suisse.
On montrait que les choses qui sont vraiment belles en Suisse. Il m'a manqué la Suisse quotidienne, la Suisse de tous les jours, le travail. Parfois, c'est pas si propre que c'était montré dans le film. C'était très beau, mais ça allait un peu dans la direction de montrer des clichés.
Le documentaire devrait être diffusé prochainement par la télévision tchèque et intéressera tout particulièrement les personnes qui ont vécu une situation similaire à la suite des événements de 1968.
Voilà, on passe tout de suite à cette deuxième partie d'émission. Un projet unique est actuellement proposé au public par le Musée national de Prague. Il permet de découvrir les originaux de précieux manuscrits relatant les débuts de l'histoire tchèque et l'ère mythique des premiers princes barbares. L'occasion pour Jarka Gisubelova de vous les présenter dans cette nouvelle édition des Chapitres de l'Histoire.
Chapitre de l'Histoire.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Un total de 6 chroniques et manuscrits de textes fondamentaux de l'histoire tchèque sont présentés au public, chacun pendant 15 jours, soit la durée maximale permettant d'exposer des documents papier anciens. L'exposition s'est ouverte le 18 février avec le manuscrit de Bautzen de la chronique de Cosmas, qui est le plus ancien exemplaire connu de cette chronique, écrite en latin au début du XIIe siècle, comme le détaille le commissaire de l'exposition, Petr Mašek.
Takým prvním hlavním zapisovatelem byl Kosmas.
Le premier chroniqueur véritable, c'est Cosmas, et c'est donc avec cette chronique écrite entre 1119 et 1125 que nous avons commencé. Cosmas est le premier à avoir créé l'image complète des légendes tchèques, depuis l'arrivée du peuple dans le pays jusqu'à l'élection du prince Přemysl. Après la chronique de Cosmas, ce sera au tour de la chronique de Dalimil, la première écrite en langue tchèque autour de 1310. L'ouvrage développe les connaissances de Cosmas sur l'arrivée du peuple tchèque en Bohême et se termine par le règne de Jean de Luxembourg. Grâce à la chronique commandée par Charles IV à Pšebik Pulkava de Radenin, maître de l'université pragoise, nous pouvons nous familiariser avec la personne de Lech, fondateur de la Pologne. l'auteur d'une autre chronique écrite en latin à la fin du XVe siècle, Johannes Marignola, moine et explorateur italien, invité à Prague par Charles IV, est le moins connu de tous. En tant qu'étranger, Marignola se base sur Cosmas, mais il vient avec des faits nouveaux en racontant d'une manière tout à fait différente de Cosmas l'histoire de Přemysl, le laboureur appelé à monter sur le trône princier.
Nám podal příběh povolání Přemysla na knížecí stolec.
Comme le rappelle pour sa part Marta Vazzulinova du Musée National, la chronique de Cosmas a été offerte dans les années 1950 à l'État tchécoslovaque ensemble avec le Codex de Jena par le président de l'ex-RDA Wilhelm Pick. L'autographe de Cosmas n'a pas été sauvegardé. Le manuscrit de Bautzen est la plus ancienne copie connue de la chronique de Cosmas, créée quant à elle au début du XIIIe siècle. On écoute Marta Vazzulinova.
La chronique exposée est ouverte à la page où se trouve l'unique illustration que cet ouvrage contient. C'est une enluminure représentant les frères Tchech et Lech. On la date à une période postérieure à la création de la chronique. Peinte sur une feuille de parchemin, elle y a été collée plus tard. Il convient de souligner que les enluminures ayant pour thème les personnages réels de l'histoire sont très rares. La plupart des enluminures qu'on trouve dans les manuscrits médiévaux sont liées aux affaires religieuses.
Contrairement à Cosmas, qui est un personnage réel, mentionné lui ainsi que sa femme Bojetěcha directement dans le manuscrit, la chronique de Dalimil est en réalité l'œuvre d'un auteur anonyme. Certaines sources l'attribuent au chanoine de Boleslav Dalimil Mezirichski. Le chroniqueur, qui est probablement d'origine noble, ne cache nullement ses sentiments patriotiques dont le livre est emprunt. Il est convaincu de la responsabilité des monarques envers leur pays et leur peuple. Il incite à la résistance contre les influences néfastes venant de l'étranger, s'oppose au mariage des nobles tchèques avec les femmes d'autres pays et apprécie en revanche la décision du prince Oldřich d'épouser Božena, une simple fille du peuple, au lieu de choisir une princesse allemande. La chronique en 106 chapitres s'ouvre sur le récit de la construction de la fameuse tour de Babel, de la confusion des langues et de la dissémination du genre humain dans diverses parties du monde. Elle évoque ensuite l'arrivée du peuple tchèque en Bohême, les légendes de l'ancêtre tchèque de Přemysl le laboureur et les prophéties de la princesse Libouche. Il existe également une traduction allemande et latine de la chronique de Dalimil. Récemment, en 2005, un fragment d'une traduction latine découverte à la Bibliothèque nationale de France a fait l'objet d'une vente publique à Paris et c'est la Bibliothèque nationale de Prague qui l'a acquis. Le fragment contient 24 pages richement enluminées. Selon ses dessins, on a déduit que son auteur était originaire d'Italie du Nord et que ses traductions seraient liées au séjour de Charles IV en France et en Italie. Les deux derniers manuscrits exposés au Musée national sont les manuscrits de Zelená Hora et de Dvůr Králové, découverts au début du XIXe siècle et connus notamment pour le débat mené autour de leur authenticité. Marta Vazzulinova.
Rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský byly...
Les manuscrits de Dvůr Králové et de Zelená Hora ont été découverts dans les années 1817 et 1818, dans la crypte de l'église Saint-Jean-Baptiste de la ville de Dvůr Králové. Václav Hanka fait en 1817 la découverte d'un document appelé en tchèque Rukopis Králové Dvorský, soit le manuscrit de Dvůr Králové. Daté au XIIIe siècle, il présente des poèmes héroïques sur la Bohème. Pour l'écriture, on a employé l'encre ferrique de noix de gale de couleur verdâtre. Le manuscrit contient des enluminures en forme de lettrines dorées.
Le musée de la ville de Dvor Králové installait à l'intérieur de la crypte une petite exposition documentant les circonstances de la découverte du manuscrit. Mais passons à l'autre document appelé Rukopis Zelenohorský, le manuscrit de Zelenáhora.
Il a été envoyé en 1818 au musée national par une personne anonyme. On ignorait à qui appartenait sa découverte. Dans les années 1950, on a conclu qu'il a été découvert à Zelenáhora, d'où son nom. Auparavant, on l'appelait Lebouchen Soud, le tribunal de la princesse Lebouchet, d'après le poème principal. Deux personnages y apparaissent, Hrudoš et Štiahlav, les mêmes qu'on connaît de l'opéra Lebouchet de Bedřich Smetana, d'ailleurs fort inspiré par cet manuscrit. Le linguiste Josef Dobrovský fut le premier à émettre des doutes sur l'authenticité du document daté aux alentours du IXe siècle. Au fil du temps, l'avis a changé, en sorte qu'à la période de Renaissance nationale, le texte a été vénéré en tant que preuve de l'ancienneté des racines du peuple tchèque. Personne n'a alors osé mettre en doute l'authenticité des manuscrits qui sont même devenus une partie triomphante de notre culture. Les gens les déclamaient, récitaient par cœur et ils ont servi de source d'inspiration à de nombreuses œuvres d'art.
Cependant, les manuscrits ont aussi été source de polémiques et de controverses. Finalement, en 1886, le philosophe Tomáš Garrigue Masaryk et le philologue Jan Gebauer ont prouvé scientifiquement qu'il s'agissait de faux bien imités. La publication des résultats a failli provoquer un scandale. La Société tchèque des manuscrits a été fondée au XXe siècle avec l'unique but défendre l'authenticité des documents de Zelenáhora et de Dvor Králové. Or, les résultats des recherches menées dans les années 1960 sont univoques, souligne Marta Vaculinová.
Les conclusions des recherches ont prouvé que du point de vue des sciences humanitaires, il ne s'agissait pas de documents littéraires créés dans les années auxquelles ces textes se référaient. Des points d'interrogation persistent pourtant. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qui est l'auteur de ces manuscrits. On a toujours soupçonné Václav Hanka et Josef Linda. Même si Václav Hanka, bibliothécaire et en quelque sorte notre précurseur, était une personnalité controversée, impossible d'affirmer avec conviction que c'était lui l'auteur des faux.
L'exposition des manuscrits au musée national refermera ses portes le 29 avril et elle est la dernière avant la fermeture du bâtiment historique du musée pour travaux de rénovation qui sont prévus jusqu'au milieu de l'année 2015.
Voilà, c'est la fin des émissions en français de Radio Prague, des émissions qui, je vous le rappelle, sont téléchargeables sur notre site internet, le www.radio.cz, un site internet qui vous permet également de réécouter ces émissions en streaming ou également de lire les articles. C'est la magie de l'internet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.